chronique sanguine avec Monique Kerouac.
Oui, sans folie. Alors, Hélène, lorsque trois chercheurs, une Australienne et deux Américains, ont réalisé qu'ils avaient trouvé la même chose, ben, on peut imaginer que peut-être leurs mâchoires se sont décrochées. Alors, sans qu'ils se consultent, leurs travaux ont convergé, et ce, vers une même molécule, le PF4. Alors, dont la mission prioritaire est de colmater les brèches de nos vaisseaux sanguins. Pourquoi? Ben, pour nous éviter l'hémorragie. Alors, ce que révèlent aujourd'hui les analyses, c'est que cette molécule possède aussi un autre pouvoir, celui de donner un coup de jeune à notre cerveau. Alors, les chercheurs ont constaté que PF4 était l'un des facteurs les plus présents dans le sang après l'exercice, connu pour stimuler la neurogénèse. Peut-être vous demandez-vous, qu'est-ce que la neurogénèse?
Vous avez lu dans mes pensées. Dans nos pensées. Je me mets à la place des auditeurs.
On a cette capacité, n'est-ce pas, Hélène? Alors, c'est un ensemble du processus de formation d'un neurone fonctionnel du système nerveux. En d'autres termes, c'est la régénérescence de nos neurones. Alors, c'est pour cela qu'ils se sont concentrés sur lui, ces chercheurs. Ils savaient aussi que ce facteur est un marqueur de la jeunesse du sang. Il est naturellement bien concentré dans la circulation sanguine des personnes jeunes, plus que concentrée, pardon, le plus est bien important, que dans celle des personnes âgées. Alors, pourra-t-il avoir un effet sur le vieillissement du cerveau? Bien, l'équipe australienne trouve bientôt que oui. L'injection de PF4 favorise la création de nouveaux neurones chez la souris. Dans le même temps, de l'autre côté du Pacifique, en Californie, deux équipes de San Francisco observent que cette même molécule est capable de calmer l'inflammation dans l'hippocampe, cette région du cerveau particulièrement sensible aux effets du temps qui passe. Ainsi, PF4 a permis à des animaux, jeunes et vieux, d'améliorer leur performance lors de tests de mémoire et d'apprentissage. Donc, le PF4 a le pouvoir de rajeunir le cerveau, il n'y a pas de doute. Et c'est l'une des composantes du sang, hein, c'est pas la seule. Mm-hmm. Je vous en parlerai un petit peu plus loin tout à l'heure. Alors, étonnante découverte qui fait tout de même l'objet de travaux de recherche un peu plus sérieux depuis quand même une vingtaine d'années. Les scientifiques soupçonnaient depuis longtemps l'existence dans le sang d'un je ne sais quoi rajeunissant, un composant reconstituant quelque chose qui agirait sur le corps pour lui donner un coup de jeunesse, un coup de frais. L'idée vient d'ailleurs du fond des âges, et il n'y a qu'à penser au mythe du vampire. Ne tire-t-il pas sa force vitale du sang frais? Alors, il y a du vrai peut-être derrière la légende. La première expérience qui a fait date est effectuée en 2007 par Tom Rando, qui est un professeur de neurologie et de biologie moléculaire, cellulaire et du développement à l'Université Stanford. Le chercheur a alors adapté un modèle inventé en France au 19e siècle, oui, j'ai bien dit 19e, par le médecin Paul Berthe. La parabiose. Qu'est-ce que c'est? Oui, alors voilà, il s'agit de relier deux souris, une jeune et une vieille, par leur circulation sanguine. C'est comme des sœurs siamoises. On les a connectées finalement, créées artificiellement en laboratoire, observées, et étonnamment, on a constaté que la plus âgée rajeunissait à vue d'œil. Ah. Sa fourrure, sa peau paraissait plus jeune. Imaginez notre peau, Hélène. Oh my God! Et les tissus des muscles et du foie, notamment, semblaient aussi retrouver leur fraîcheur. D'autres travaux ont suivi, tous observant les mêmes effets sur le pancréas et le cœur. C'est à cette époque que Tony Weiss-Correy, spécialiste des maladies neurodégénératives à l'Université Stanford et voisin du laboratoire de Tom Rando, plonge dans le sujet. Et il se pose pour la première fois la question des effets potentiels sur le cerveau. dès 2011, il reprend le protocole de la parébiose, là, le jeu des siamois, en scrutant cette fois le système nerveux central. Et il constate une même réjuvénation. Les souris âgées n'ont plus beaucoup de cellules souches cérébrales. Elles fabriquent très peu de nouveaux neurones. Mais si vous branchez une de ces vieilles souris à une congénère plus jeune, bien, elle se met à produire plus de cellules souches. Mieux, Tony Weiss-Corré obtient des résultats probants, non pas en suturant des animaux ensemble, mais en faisant de simples injections répétées de plasma de jeunes souris à de vieilles souris. Quel effet ça a? Bien, c'est de survolter leur performance dans les tâches d'apprentissage et de mémorisation, impliquant toujours cette partie du cerveau fort importante, l'hippocampe. Et en plus, Hélène, l'effet est durable. C'est une étude réalisée l'année dernière par des chercheurs de l'Université Duke aux États-Unis qui l'a démontré. Eux aussi ont eu recours à la parabiose et eux aussi ont formé des paires de jeunes et vieilles souris, mais ils ont prolongé la mise en commun de leur sang 3 mois au lieu de 3 semaines avant de les détacher et de les laisser vivre leur vie pour suivre la tournure des événements pendant 2 mois. Eh bien, hurra! Eureka! Là encore, en comparaison avec des souris âgées témoins, celles qui ont participé à l'expérience ont vu leur durée de vie allongée en moyenne de 10 %.
Bon, chanceuse ces souris-là.
En plus, peau neuve, cerveau neuf, mieux, la durée de la vie en bonne santé a progressé. Par exemple, leur masse musculaire et leur vitalité a augmenté. Alors, dès ces premières expériences, la nouvelle miracle du sang jeune se répand, vous imaginez bien, comme une traînée de poudre, oui. Bien au-delà des milieux universitaires. Aucune étude n'établit des effets sur l'humain, mais des milliardaires aux rêves d'immortalité, des investisseurs attirés par l'odeur non pas des billets verts, mais bien du sang, ne tardent pas à griller les étapes. Alors, en 2016, il y a une start-up californienne, Ambrosia, qui fait une annonce fracassante qui retient d'autant plus l'attention, comme je le disais en présentation, qu'un article de presse américain évoque l'intérêt de Peter Thiel, le cofondateur de PayPal. Mais attention, en 2019, la FDA, c'est-à-dire l'Agence de régulation américaine, est obligée de mettre le holà, rappelant que ces pratiques n'ont pas de bénéfices cliniquement encore prouvés. Alors, les données anti-âge sur les souris sont solides et ont une vraie base scientifique, mais elles restent limitées aux rongeurs et ne peuvent être immédiatement traduites en thérapie anti-vieillissement pour l'humain. Mais des tests commencent. Dans des dizaines de laboratoires, des études se lancent sur des patients atteints de maladies neurodégénératives. Une étude pilote de l'Université norvégienne de sciences et de technologie notamment est en phase de recrutement. Et cet essai clinique s'appelle EXPLAS, prévoit 12 transfusions de plasma de jeunes hommes, on imagine en excellente santé, entre 18 et 40 ans, à des personnes atteintes de la maladie d'Alzheimer, mais cela à un stade précoce. Mais, comme je le disais tout à l'heure, le passage à l'humain pose tout de même des questions d'éthique. Dans quelle mesure pourra-t-on envisager sérieusement et à grande échelle les transfusions de sang jeune? Qu'est-ce qu'un sang jeune? La jeunesse ne répond à aucune définition scientifique à l'heure actuelle. À partir de quel âge? Jusqu'à quel âge? On imagine facilement le malaise si des mineurs étaient impliqués. Comme la plupart des chercheurs du secteur, James White veut s'affranchir du sang en tant que tel. Il est plus probable, nous dit-il, que nous devions identifier le ou les facteurs présents dans le sang avec le plus grand potentiel thérapeutique, pas seulement le PF4. Nous pourrions en contrôler à la fois la dose et la fréquence. Bon, que peut contenir aussi le sang de si particulier qui lui confère ce pouvoir anti-âge? On ne le sait pas encore.
PF4?
Oui, il y a PS4, mais il y aurait bien d'autres choses. Là, je peux en nommer chronokine, exotaxine. C'est quelques protéines laquelle fait précisément rajeunir. Et il compare ça à chercher une aiguille dans une botte de foin. Mmh. Mais les chercheurs, ils travaillent méthodiquement pour bien sûr craquer ce code. Donc, Hélène, encore des nouvelles recherches à suivre si on veut rester jeune éternellement.
Alors, le Botox n'a pas à s'en faire, là. Il n'y a pas de compétition trop forte jusqu'à maintenant.
Pas jusqu'à présent, mais je sais qu'il y a bien des Américains qui utilisent, je pense déjà, des transfusions sanguines. Et vous évoquiez aussi peut-être...
Mick Jagger,
mais bon. C'est à leur risque et péril, peut-être.
Merci, Monique. Monique!
Oui.
Allons-y donc avec vos brèves. L'impulsivité, est-ce que c'est un trait de caractère?
Bien, ça fait un siècle, Hélène, que les chercheurs en psychologie s'échinent à la définir sans y parvenir, au point que certains vont jusqu'à rejeter le concept lui-même. Sauf que une équipe sino-allemande apporte aujourd'hui la démonstration de l'existence de l'impulsivité comme un trait de caractère. Les chercheurs ont soumis 1700 personnes à des tests psychométriques. Elles devaient répondre à 50 questions, formant une échelle qui permet de prédire si un individu a tendance à ne pas savoir se retenir de manger, d'acheter ou de regarder une vidéo sur les réseaux sociaux, ou même de consulter les réseaux sociaux. Et selon eux, ce serait un trait stable. Reproduits 3 mois plus tard, les tests donnent des résultats à 85% identiques. Donc, le comportement est bien ancré dans la personnalité. Bien sûr, il reste à explorer ces variantes parce qu'il y a plusieurs types d'impulsifs, ceux qui cherchent des sensations, ceux qui ne savent pas attendre, ceux qui aiment les récompenses et bien d'autres probablement qui restent encore à définir. Alors voilà, c'est bien un trait de caractère.
Et un bain de nature, est-ce que ça influence nos choix d'aliments? Je portais à dire que oui.
Eh bien, vous avez bien raison, Hélène, parce qu'une balade d'une vingtaine de minutes, d'une vingtaine de minutes, on choisit des aliments plus équilibrés si on a marché dans un grand parc plutôt que dans des rues sans verdure.
Oui, on a moins le goût, me semble, quand on arrive de la nature, de s'enfiler deux hot dogs chez moutarde.
C'est ça, exactement, des chips ou des gâteaux. En fait, on va plutôt manger des fruits et des noix. Ça va même plus loin, suggère 4 autres expériences réalisées en ligne. Des centaines de personnes devaient, par exemple, imaginer passer une nuit dans une chambre d'hôtel avec une vue sur un paysage verdoyant ou sur des immeubles et ensuite commander un menu pour le dîner.
Ah.
Eh bien, l'effet s'est reproduit. Même pas besoin d'aller vraiment dans la nature. Il s'agit tout simplement de s'y projeter mentalement pour composer des repas plus équilibrés.
La visualisation peut aider à notre façon de manger.
Voilà, notre santé, notre bien-être. Voilà, tout simplement.
Eh bien. Puis on termine avec une capsule linguistique. Êtes-vous à votre meilleur? En tout cas, aujourd'hui, vous étiez pas mal à votre meilleur, même certaine que ça ne se dit pas en français.
Ça se dit pas. Ben non, Hélène, c'est encore un calque de l'anglais, imaginez.
Si en anglais, on dit quoi?
You're at your best.
Oh yeah.
Oh yeah. Mm-hmm. Alors, par exemple, si on parle d'un chanteur, ben on dira qu'il était en pleine forme, il était plus en forme que jamais, il était au mieux de sa forme, il était au sommet de sa forme.
Au sommet de son art.
Exactement. Alors, finalement... on peut aussi dire, par exemple, il est ton meilleur ami et ce sera notre meilleure année. Ça, c'est tout à fait
oui,
juste.
Oui, oui.
Ce sera notre meilleure chronique ou notre meilleure émission. Mais on ne dirait pas que vous étiez à votre meilleur aujourd'hui.
Non, OK, parce que c'est pas parce que c'est pas vrai, c'est parce que ça ne se dit pas. Point final.
C'est que, bon, on aime ça.
On ne l'encourage pas.
On aime ça, aller encourager l'usage de nouvelles expressions,
oui.
Mais si c'est vraiment un calque de l'anglais, c'est peut-être à éviter. En tout cas,
hier,
j'y crois encore à cette marotte.
Je suis très, très à l'écoute de tout ce qui se fait à la radio. Hier, j'ai entendu « palier à ».
Ah, encore?
J'ai entendu 2000 athlètes, quand on sait que 1000 ne prend jamais de S. Et
non.
Qu'est-ce que j'ai entendu aussi? « Impacté ».
Ah oui.
Oui, je pense que ça va entrer dans l'usage, ça a impacté.
vous pensez?
Oh.
Peut-être que je pourrais en parler la semaine prochaine, impacter. Tiens.
Bien, pourquoi
je vais prendre note de ça. Hein?
Je suis certaine que vous auriez de l'impact. Monique, merci pour tout. Passez une très belle journée. Puis, on vous écoute demain à l'émission Au quotidien, 5e édition.
Oui, 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 j'y serai bien sûr avec Francine. J'ai quelques petites bonnes nouvelles
oui?
encore.
Oui, est-ce que vous pouvez pas nous mettre un
facile,
petit...
Pas toujours facile à trouver. Par exemple, Hélène, le défi est parfois de taille.
Ah oui, bien, vous êtes une travaillante, une exploratrice. Est-ce que vous pouvez nous donner, je ne sais pas, un avant-goût, un sujet dont vous allez traiter demain?
Ben, en tout cas, il y aura deux propos sur des athlètes et aussi une subvention fort intéressante qui concerne notre patrimoine religieux. Alors voilà pour l'instant. Mais je continue à relever les...
à faire vos recherches.
à faire mes recherches, okay. Exactement. Alors bonne semaine, Hélène.
Merci à vous aussi.